Radio Campus Paris.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris. Nouvelle invitée pour parler des régionales aujourd'hui, Nizar Bourcharda, tête de liste de l'Union des démocrates musulmans français. Vous êtes conseiller municipal à Bricomte-Robert, c'est en Seine-et-Marne. Vous avez quitté l'UDI pour l'UDMF. Ce qui vous a motivé, dites-vous, c'est la recrudescence de l'islamophobie après les attentats de janvier dernier. Cette année, c'est la première fois que l'Union des démocrates musulmans, créée en 2012, se présente aux élections régionales, un parti qui malgré son nom, prône la laïcité et souhaite, dit-il, réconcilier éthique et politique, le parti qui compte plus de 6500 fans sur Facebook. Bonsoir Nizar Bourcharda.
Bonsoir.
Alors, première question, Union des démocrates musulmans français. Ce mot musulman dans un nom de parti politique, ce n'est pas commun. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors, ce mot musulman, on l'a mis dans l'acronyme de notre parti. Bien entendu, il est situé entre le mot français et le mot démocrate, donc il est à voir sous le prisme de la citoyenneté, et non pas sous le prisme du religieux. Pourquoi on l'a mis en avant, c'est-à-dire que depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, le musulman est vu dans les médias, ou même dans la bouche de certains responsables politiques, sous l'angle du terrorisme, de l'islamisme, du djihadisme, tous les mots en isme que l'on peut entendre, et aujourd'hui, quand un musulman regarde ses chaînes de télé, il est choqué. Il est choqué parce que ça ne le représente en rien. Car aujourd'hui, on le sait tous, le musulman, en tant que citoyen français, participe à la vie économique de ce pays, participe à la vie associative, participe aussi également à la vie politique. Et parce qu'il participe à la vie politique aujourd'hui, il œuvre dans l'intérêt général et avec le bien commun.
Alors, pour qu'on aide un peu les auditeurs à s'y repérer, je l'ai dit, vous êtes un ancien de l'UDI. Est-ce que ça veut dire qu'on peut placer votre parti plutôt à droite ?
Non, justement, nous avons beaucoup de profils au sein de l'Union des démocrates musulmans français, des profils venant de l'extrême gauche, de la droite républicaine, du centre également. Donc nous positionnons ni à droite, ni à gauche et encore moins au centre. C'est pas parce que moi, effectivement, j'ai plutôt, on va dire un positionnement centriste, centre droit, que l'UDMF se situe au centre droit. Non. Plusieurs élus ont rejoint l'UDMF en 2015, des élus de différents bords. Donc sur l'échiquier politique, l'UDMF aujourd'hui justement justifie qu'il ne s'interdit rien, ni de prôner des mesures entre guillemets estampillées à gauche, ni encore moins des mesures estampillées à droite.
Alors j'ai lu dans la presse que c'est suite aux attentats de début d'année et la vague d'actes islamophobes qui ont suivi que vous avez décidé de vous engager dans l'Union des musulmans démocrates de France. Les événements de ces derniers jours vous ont-ils conforté dans ce choix ?
Voilà, c'est une des principales raisons. Je me suis absolument pas fâché avec les responsables de l'UDI. J'occupais des responsabilités au niveau du département, au niveau sur l'échelle locale. J'étais délégué de circonscription. J'étais un défenseur de laïcité, je le reste. Bien entendu, c'est absolument pas antinomique avec aujourd'hui les valeurs prônées par l'UDMF. Mais je me suis posé une question. Je me suis dit, avec une recrudescence de plus de 500% des agressions à caractère islamophobe durant le premier semestre 2015, ma place était-elle dans un grand parti, dans le troisième ou quatrième plus grand parti de France, alors que justement le contexte des élections de mars 2015, avec notamment le livre qui a fait polémique de Michel Houellebecq, un contexte post-attentat de Charlie Hebdo que nous avons connu au mois de janvier, a eu, on va dire, une conséquence sur la présentation de certains binômes aux élections départementales. Et ces binômes-là n'ont pas pu se présenter parce que, il y a eu des menaces. Et ça, pour moi, c'est contraire, on va dire, aux valeurs de liberté, égalité, fraternité, au triptyque républicain que prône la France, aux valeurs de la démocratie, du pluralisme. Et je me suis dit qu'avec une expérience comme la mienne en politique, et d'autres élus d'ailleurs ont fait la même démarche, il fallait, entre guillemets, soutenir justement ce pluralisme et intégrer non pas des grands partis pour des questions de poste ou autre, mais intégrer peut-être un plus petit parti et prôner haut et fort des valeurs qui sont aujourd'hui les miennes.
Mais est-ce qu'un seul parti, un petit parti, peut être un rempart efficace contre l'islamophobie ?
Alors, On ne fait pas de l'islamophobie notre seul point de programme, bien entendu. Nous adressons à tous les citoyens français, sans distinction d'âge, de couleur ou même de croyance. L'islamophobie aujourd'hui, et on l'a vu hélas, là nous sommes quasiment à 10 jours après les événements horribles que nous avons connus à Paris et en Seine-Saint-Denis, et juste après le week-end, c'est-à-dire on s'est tous réveillés samedi choqués, et le week-end, voire le lundi, on a commencé à faire la chasse aux musulmans. Il y a eu des agressions dans ma propre ville, à Brie-Comte-Robert, une ville tranquille de 17 000 habitants de Seine-et-Marne. Il y a eu une femme voilée qui s'est fait agresser au couteau. Et ça, partout en France, ça a été...
Depuis le 13 novembre, en chiffre, 34 menaces et actions anti-musulmanes ont été enregistrées. C'est un chiffre que j'ai trouvé.
Donc
hier.
Ça, on est à 10 jours, et ça, ce sont les menaces qui ont été enregistrées. C'est-à-dire que j'ai aussi connaissance de certains actes où il n'y a pas eu forcément dépôt de plainte, parce que les gens ont peur. Les gens ont peur, et je pense qu'aujourd'hui, il faut protéger tous les citoyens français. Et quand je dis tous les citoyens français, ce sont aussi, bien entendu, les citoyens de confession musulmane.
Et ça passe par un parti politique, du coup ?
Il faut un engagement associatif. Aujourd'hui, les associations font beaucoup de travail, je tiens vraiment à le souligner. Ça passe aussi par un engagement citoyen, bien entendu, du citoyen français de confession musulmane. Mais aujourd'hui, la réponse ne peut être que politique. Pourquoi elle peut être que politique ? Parce que les politiques ont décidé de placer l'islam au centre des débats. On a décidé d'islamiser les débats. C'est-à-dire, quand on parle de cantine, on islamise. Quand on parle d'éducation, on islamise. Et ça, c'est plus possible. Contrairement à ce que j'ai pu entendre ou dire, nous, et je le réaffirme aujourd'hui, nous souhaitons désislamiser les débats. Quand Manuel Valls dit que l'enjeu pour la présidentielle de 2007, ça sera l'islam, je lui dis, mais mon cher Manuel, c'est l'emploi peut-être. C'est le chômage, peut-être l'éducation, la formation professionnelle aujourd'hui qui pose problème. L'islam, aujourd'hui, il faut arrêter de mettre... Justement.
Et vous n'auriez pas une place plus forte en étant dans ces grands partis, l'UDI par exemple, qu'en y étant à l'extérieur ?
Non, aujourd'hui, j'ai rejoint l'UDMF il y a quelques mois, en 2015, suite justement, on va dire, au départemental de mars 2015, car j'ai pris connaissance de l'existence de l'UDMF à ce moment-là, et aujourd'hui, tout me donne raison. C'est-à-dire qu'à l'UDI, je n'étais absolument pas médiatisé, connu peut-être sur l'échelle territoriale de Brie-Comte-Robert. Aujourd'hui, je dis simplement que les médias nous accordent un temps de parole honorable, notamment dans cette campagne, je tiens à le souligner. Souvent des candidats disent oui, voilà, les médias nous négligent. Non, nous, les médias nous accordent un temps de parole et j'en leur remercie. Et ça nous permet d'expliquer notre démarche qui a vocation pédagogique, de dire qu'aujourd'hui, le mot musulman n'est pas à voir sur le prisme du religieux, mais bien entendu sur le prisme de la citoyenneté. Et aujourd'hui, des musulmans qui proposent des propositions concrètes pour là actuellement le conseil régional est dans le champ des compétences du conseil régional. Aujourd'hui, les Français en prennent conscience. C'est d'ailleurs sur le terrain, lors de nos apparitions de tractage, il y a beaucoup de citoyens français qui viennent nous saluer et qui saluent la démarche.
Mais vos électeurs, ça sera principalement des électeurs musulmans, ou est-ce que ça sera plus large que ça ?
Non, bien sûr, on est déjà... Enfin, vous savez, une première victoire pour le DMF, ça a été de déposer officiellement en préfecture de région la liste de 225 candidats pour ces élections. Ça, c'est une première victoire. Je dirais la seconde victoire, ça a été, bien entendu, quand nous avons reçu les candidatures pour ces élections régionales, nous ne demandons absolument pas, nous sommes un parti non confessionnel, nous ne demandons absolument pas de quelle confession est ce candidat. Par contre, il y a des candidats qui ont souhaité nous revendiquer le fait qu'il n'était pas de confession musulmane, le fait qu'il comprenait notre combat. Et ça, déjà, c'est une seconde victoire, c'est-à-dire que déjà, parmi nos candidats, nous avons des personnes qui comprenons notre combat et nous sommes complètement contre les personnes qui nous taxent de communautaristes. Pourquoi ? Parce qu'un groupe communautaire se replie sur lui-même. Un groupe communautaire a peur des autres. Nous faisons la démarche inverse. Nous allons vers les autres. Nous prenons le vivre ensemble. Même plus que le vivre ensemble, notre slogan, c'est faire ensemble une Île-de-France qui nous rassemble. Faire ensemble, c'est plus que vivre ensemble.
Alors, on va entrer maintenant dans le détail de votre programme. Concernant l'éducation, vous voulez renforcer les liens entre les entreprises et les écoles. Concrètement, comment ça se passerait ?
Alors, clairement, aujourd'hui, le conseil régional a pour une compétence qui est l'orientation scolaire et professionnelle. Personne n'en parle. j'ai vu aucun parti parler d'orientation. Aujourd'hui, clairement, il y a un problème d'orientation en France. J'ai 34 ans, c'était pas si loin que ça, on va dire, le collège. J'ai beaucoup, on va dire, je parle avec beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, en troisième, qui est le carrefour de l'orientation, prendre une décision sur son avenir. Les jeunes, vous savez, en troisième, ils s'intéressent aux copains, à la culture, au cinéma. Ils se posent pas la question quel emploi je vais occuper dans 10 ans. Et donc, ce que nous proposons, c'est qu'on informe les jeunes et les familles dès ce carrefour de l'orientation, on l'informe correctement, c'est-à-dire sur les taux d'insertion de certaines filières, sur les taux de réussite de certaines écoles, ce qui n'est absolument pas disponible pour les familles, alors que la loi le permet. Et j'irai plus loin, c'est-à-dire que je souhaite que le monde économique et le monde éducatif opèrent un rapprochement. Quand je dis un rapprochement, c'est-à-dire qu'on permette à des chefs d'entreprise de différentes filières de venir proposer, exposer, expliciter, faire découvrir, professionnellement parlant, leur métier au sein même des collèges, des lycées et des universités.
Vous souhaitez créer des voies d'apprentissage parallèlement aux voies scolaires. Là aussi, comment est-ce que cette mesure peut être mise en place ?
Alors aujourd'hui, clairement, ce qui est dommage, c'est que le système opère une dichotomie entre la voie scolaire, l'apprentissage, voire même les contrats de professionnalisation, c'est-à-dire l'alternance en général. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que si, par exemple, dans un bac pro qui dure 3 ans, on fasse la première année en voie scolaire et les 2 années suivantes en apprentissage, on sait que l'apprentissage permet des taux d'insertion beaucoup plus grands, et on sait que également la voie scolaire rassure le cadre familial. C'est-à-dire qu'on prend l'avantage d'intégrer un lycée professionnel la première, la deuxième année, c'est-à-dire qu'on rassure le jeune et sa famille en disant que vous allez dans un cadre scolaire et non pas être salarié. Et la dernière année, on profite pour faire signer au jeune un contrat d'apprentissage, ce qui va lui donner une expérience concrète sur le terrain, une semaine à l'école, une semaine en entreprise en tant que salarié, et derrière va lui donner forcément plus de chances pour s'insérer professionnellement.
On parle maintenant des transports, premier pôle de dépendance de la région, on le rappelle. Hein. Vous proposez que les patrons prennent en charge 50% de l'abonnement au parking à proximité des transports en commun. Comment est-ce que vous pouvez les contraindre à faire ça ?
Alors aujourd'hui, toutes les entreprises ont généralement dans les contrats de travail, insèrent des clauses comme le fait de prendre en charge 50% du pass Navigo par exemple. Nous allons plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 40 millions de déplacements en Île-de-France. Parmi ces 40 millions, il y a beaucoup de salariés qui prennent leur voiture, qui font quelques kilomètres pour aller jusqu'à la gare la plus proche, qui déposent leur voiture et qui ensuite montent la plupart du temps sur Paris. Mmh. Ce qu'on propose, c'est que dans les gares, dans certaines gares, il existe aujourd'hui des parkings. Ces places sont payantes. Et le trajet domicile jusqu'au lieu de travail participe au financement à 50% de l'entreprise. Donc, c'est de dire aux entreprises de prendre en charge 50% du coût du parking quand le salarié prend sa voiture pour aller jusqu'à la gare la plus proche. Donc, je pense que c'est une question de négociation, c'est une question de logique, c'est une question de faciliter les déplacements professionnels. Mais nous allons encore plus loin. C'est-à-dire que nous voyons une innovation dans ces transports. C'est-à-dire que plutôt que dépenser plusieurs milliards d'euros dans le Grand Paris, bien entendu, on propose la rénovation des rames aujourd'hui existantes. Vous savez, j'habite en Seine-et-Marne, il existe toujours des petits gris qui font Melun jusqu'à la gare de Lyon. C'est atroce, on va dire, c'est fatigant, c'est lourd. Quand il fait froid, généralement, il y a des incidents. Enfin, bref, et donc je me dis, la priorité aujourd'hui, c'est de rénover ces rames-là. La priorité, c'est d'aller plus loin sur ce projet-là.
Alors, cette priorité-là de rénover tout ce qui existe déjà, ça s'entend chez tous les candidats.
Bien sûr, et nous allons plus loin, justement. Je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire. J'allais dire, effectivement, il y a des candidats, bien entendu, qui le pointent. Nous allons encore plus loin. C'est-à-dire que, bien entendu, il faut rénover les rames, mais il faut construire des espaces de coworking dans les gares, de faciliter, de désengorger les déplacements. Et ça, nous sommes les seuls. C'est-à-dire de se dire aujourd'hui, le salarié, en moyenne, met entre 1h et 1h20. La moyenne, on va dire, en Ile-de-France, c'est 1h20 pour atteindre son domicile, enfin son lieu de travail. Alors que si les grands groupes, les certaines entreprises qui le peuvent, on va dire, on instaure le conseil régional, construit des espaces de coworking dans les plus grandes gares de la grande couronne, non seulement ça fait gagner du temps, donc ça veut dire moins de fatigue pour les salariés, ça veut dire que plutôt sur le lieu de travail, et un confort de vie pour le salarié lambda.
Pour qu'on soit bien clair, qu'est-ce que vous appelez espace de coworking ?
C'est un lieu où on peut pratiquer, par exemple, du télétravail. Pourquoi le télétravail aujourd'hui ne se développe pas ? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas chez elles, on va dire, la logistique nécessaire pour travailler. Nous construisons ces espaces-là pour que les entreprises les louent et se disent, ben voilà, j'ai 2-3 salariés qui sont à Garges-lès-Gonesse, 2-3 salariés qui sont à Montereau, et ben on va louer ces espaces-là pour qu'ils puissent travailler en direct dans ces espaces-là.
Vous avez évoqué tout à l'heure le Grand Paris. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre quand même votre position sur ce Grand Paris, notamment sur le Grand Paris Express. Est-ce que vous pensez que c'est un projet nécessaire pour la région ou un projet qui va être trop coûteux et donc inutile ?
J'essaie de vous répondre tout à l'heure par le fait de prioriser. Moi, je ne pense pas que ça soit une condition sine qua non qui fasse, on va dire, de l'Île-de-France la première métropole en Europe. Effectivement, aujourd'hui, ce qui est problématique, et je peux le comprendre, c'est on met plus de temps pour faire Val d'Oise, enfin des communes du Val d'Oise jusqu'en Seine-Saint-Denis, parce qu'on est obligé de passer par le centre de Paris et de remonter ensuite. Et c'est valable pour l'ensemble des départements franciliens. Donc je peux comprendre qu'on construise, on va dire, des lignes, on va dire, qui rejoignent différents départements. Maintenant, je me dis, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité parce que c'est des milliards d'euros. Et en plus, c'est fait, on va dire, en catimini. On ne comprend pas qui finance quoi, d'où vont venir les financements, qui va contrôler quoi. On confond le Grand Paris Express avec la métropole de Grand Paris. Je pense que pour le citoyen lambda, c'est incompréhensible. C'est un cafarnaum pas possible.
Autre sujet important, le logement. Vous souhaitez repenser la prise en charge des sans-abri. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ?
Alors, nous sommes les seuls à proposer une mesure concrète pour ces profils-là. Pourquoi nous avons instauré cette mesure-là ? Au mois de septembre, quand nous avons commencé la campagne, notre première opération, nous les avons menées pour les réfugiés. Et j'ai déjà entendu plusieurs détracteurs nous dire « oui, ils sont pour l'accueil de réfugiés et opposer ». Le FM, par exemple, le Front National, a opposé les profils des sans-abri aux réfugiés, comme si on ne pouvait pas accueillir des réfugiés et faire des propositions pour les sans-abri. Nous, une proposition concrète, il y a à peu près un peu plus de 1300 communes aujourd'hui en Île-de-France. Mmh. Si chaque commune conventionne avec le conseil régional, qui a la compétence région, d'accueillir entre 1 et 10 sans-abri sur sa commune en fonction de son nombre d'habitants, on ne va pas demander à la commune de Diante qui a 300 habitants et la commune de Boulogne-Billancourt qui dépasse les 100 000 d'accueillir le même nombre de sans-abri, mais si chaque commune fait l'effort d'accueillir et de réserver des logements pour ces personnes-là, on arriverait à résoudre le problème des sans-abri en Île-de-France. Et notamment pour le gros quart. Et je parle du gros quart de ce profil, de ces personnes-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un quart aujourd'hui des sans-abri qui ont un emploi et qui ont simplement besoin d'un coup de pouce, d'une garantie de la part du conseil régional notamment et de la part de certaines communes pour pouvoir occuper un logement. Les autres, sans-abri, ce sont des problèmes qui nécessitent un accompagnement social beaucoup plus approfondi.
Et les maires que vous n'arriverez pas à convaincre, est-ce qu'il y aura des sanctions à leur encontre ?
Ah mais complètement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le conseil régional aujourd'hui est la métropole qui travaille avec les intercommunalités et la métropole qui travaille avec les communes, avec les départements. Je pense que c'est une métropole puissante. C'est une métropole qui doit être, on va dire, proactive.
Et c'est quoi la sanction que vous aurez contre les maires récalcitrants ?
C'est simplement déjà en termes de communication d'informer les citoyens que ces maires-là ne veulent pas, on va dire, réserver des logements pour les sans-abri, pour les sans-abri notamment qui occupent un emploi. Aujourd'hui, je pense qu'en politique, il faut moins de communication, mais plus d'information. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent de l'information auprès des citoyens. Deuxième sanction, il est très clair que comme le conseil régional finance plusieurs communes, ils n'auront pas accès à ces financements, notamment sur la partie logement, bien entendu.
Une dernière question pour terminer. C'est quoi votre objectif en termes de voix ? Je rappelle qu'un récent sondage vous donne un peu moins de 0,5% des voix à l'élection d'ici décembre.
Alors, tout à l'heure, j'ai dit que déjà une première victoire, ça a été de déposer les listes. Une seconde victoire, c'était d'avoir, bien entendu, de s'adresser à tous et d'avoir dans nos candidats des personnes issues de tout horizon. La troisième victoire, on a fait un meeting à Savigny-le-Temple et parmi les personnes qui sont venues, un dimanche après-midi, en Seine-et-Marne, beaucoup étaient issus de personnes qui étaient abstentionnistes, qui ne croyaient plus en la politique. Et aujourd'hui, tous nous ont dit, une grande partie, qu'ils allaient, bien entendu, retourner aux urnes. Donc, On a contribué à faire que le français aujourd'hui fasse son devoir citoyen, mais en plus de ça, les sortir de cette on va dire, abstention passive. Et donc aujourd'hui, ça c'est notre troisième victoire. Et pour répondre à votre question, au-delà du score que nous allons faire, et même si nous faisons 0,1%, au-delà du score, je pense qu'aujourd'hui, on a ancré dans le paysage politique, en tout cas francilien, mais aussi français, dans la mesure où nous allons présenter aussi des candidats aux législatives de 2017, l'Union des démocrates musulmans français. Et nous sommes toujours dans une démarche pédagogique d'expliquer notre démarche aux Français. Et ça, nous avons atteint l'ensemble des objectifs aujourd'hui que nous avons mis au bureau politique pour ces élections.
Merci Nizar Bourcharda d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes tête de liste de l'Union des démocrates musulmans français pour les prochaines élections régionales.
Radio Campus Paris.